tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, quand le narcisse est roi, rendez-vous à partir de 12h55 avec le philosophe Fabrice Midal, un pro de la méditation, auteur de Narcisse n'est pas égoïste chez Flammarion, en coédition avec France Culture. Mais d'abord, un hors-série, une expérience sans suite. Black et Mortimer revient avec le dernier pharaon chez Dargo, signé d'un grand de la BD, grand prix d'Angoulême, grand complice de Benoît Peters dans la cité, la série Les Cités Obscures, Plagiat ou encore Dolores. Dessinateur, illustrateur et scénographe, le grand François Skoyten est notre invité à écouter sur France Culture jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et on reprend le mystère de la grande pyramide, là où on l'avait laissé. Un flashback égyptien hante Mortimer, qui est réveillé régulièrement par ses cauchemars. Tandis que Black doit vider Bruxelles des conséquences d'une étrange radiation qui s'échappe du palais de justice. Bruxelles, ville fantôme. Le blackout va bientôt contaminer toute l'Europe et les cerveaux des ordinateurs s'éteindre. Pour Black et Mortimer, malgré leurs différends, l'aventure reprend. Bonjour François Skoyten.
Bonjour.
Ils ont pris un coup de vieux, vos personnages, et ils se sont bonifiés avec l'âge, pas sûr.
Non, effectivement, ils se sont un petit peu séparés, éloignés, je dirais. Blake a pris un peu du galon au sein de l'armée et Mortimer s'est replié à Londres avec un petit peu d'amertume, semble-t-il. Il a été écarté, ses problèmes, ses cauchemars récurrents lui ont fait perdre un peu de crédibilité. Et c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on va prendre le récit. Ça nous intéressait de les faire vieillir parce que, d'un côté, on peut se les réapproprier peut-être un peu plus facilement, puisqu'on les éloigne comme ça de la série mythologique, je dirais, d'origine. Et du coup, on peut aussi se les rapprocher de nous, puisque bon, on a aussi pris un peu de l'âge. Et c'était une façon peut-être d'avoir un peu moins peur. De reprendre des figures quand même qui nous impressionnent encore.
C'est un duo inséparable, même des années après. Qu'est-ce qui les lie ?
Alors justement, c'est ça qui était intéressant, c'est de sentir qu'ils avaient eu quelques petits différends et qu'en même temps, ils allaient retrouver leur complicité. Une complicité qui est vraiment basée sur les aventures que Jacobs leur a fait vivre, sur quelque chose de... J'aime bien cette idée que l'amitié va reprendre, va perdurer malgré le temps, malgré les difficultés. J'ai certainement nourri le personnage de Mortimer de ce que je sentais chez Jacobs. Un petit peu d'amertume, un peu un manque de reconnaissance, une œuvre qu'on n'a pas vu au moment où elle est réalisée à quel point elle était grandiose.
À l'époque, la série n'était pas culte?
Pas à ce point. Et puis, il vivait assez difficilement le fait qu'il produisait lentement et que dès lors, il allait un petit peu se sentir décalé. Il a commencé la bande dessinée à 40 ans. Ce qui fait qu'il a, en fait, en 10 livres, il a réalisé son œuvre. C'est très particulier, ça, comme expérience, enfin, comme parcours.
Quel est votre chouchou des deux héros, duquel vous vous sentez le plus proche ?
Oh, Mortimer, évidemment, pour des raisons très simples, c'est que j'ai pris vraiment Jacobs comme modèle. Vous savez, je suis même parti des photos de Jacobs pour apprendre à dessiner Mortimer, parce que je savais que Jacobs se prenait comme modèle lui-même. Il travaillait devant un miroir, et pour beaucoup de cases, on le photographiait, et c'est à ce moment-là qu'il prenait les poses. Cette espèce de gestuelle si particulière qu'ont ces personnages, cette façon de bouger, ça a été un chanteur d'opéra, et ça a été quelqu'un qui savait trouver une forme de dramaturgie dans les positions de son personnage. Et donc, ça m'a beaucoup touché, ça m'a intéressé du coup de revenir au modèle.
Cette influence de l'opéra, du lyrique sur son dessin, à travers la gestuelle notamment de ses personnages et leur expressivité aussi, ça c'est un trait de crayon que vous avez dû travailler. Vous vous sentez plus gauche que lui dans la manière habituellement de dessiner ses personnages, ou ça a été facile de prendre cet élan aussi dans l'expressivité de Black et Mortimer?
Vous avez raison, je me sentais plus gauche, même beaucoup plus gauche. J'ai toujours été admiratif Et quand je me suis mis à dessiner ces personnages, je l'étais encore plus. Je me rendais compte qu'en fait, il a un processus très, très, très étonnant, très laborieux pour arriver à ses fins, pour arriver à cette espèce d'effet de simplicité, d'évidence. Et j'ai ramé, hein. J'ai fameusement ramé. Je croyais pas que ça allait être si compliqué. En même temps, j'adorais ça. En même temps, c'était une Madeleine de Proust. En même temps, c'était une montagne. Vous voyez, vous savez pas très bien, mais il y avait une jubilation faite de difficultés et de plaisir.
Allez, on y va. On va faire connaissance un peu mieux avec Philippe Mortimer. Vous nous l'avez déjà bien présenté à travers un extrait du Piège diabolique, sixième aventure de la série adaptée en fiction en 1962. À cet instant, le professeur manipule la machine à voyager dans le temps de son vieil ennemi, feu le professeur Milhok.
Hey oh, quel dame d'idiot je fais. Mais c'est Milhok, qu'il soit mort ou vif, a bien réussi son coup. C'est ma secret, me laisser mourir ici, il se trompe. Dans 2 jours, Black sera rentré. Ma lettre à l'hôtel Louvois l'enverra ici et tel que je le connais, il démolira la bicoque pierre par pierre s'il le faut pour me retrouver. Oui, seulement en attendant, il faut savoir où je suis tombé. Ah. Qu'est-ce que c'est? Cette gigantesque coupole brillante, presque irréelle dans son rayonnement. On dirait un œuf à la coque monumentale posé sur cette plateforme métallique. Mais Milhok aurait-il dit la vérité? Serait-ce... Damned! Le chronoscaf!
Soyez les bienvenus. Professeur Mortimer.
Milhok !
Et bientôt, peut-être aussi, votre dernier pharaon, François Skuyten, adapté en fiction, en radiophonique, pourquoi pas.
Oui, vous savez que, en plus, on est beaucoup partis du piège diabolique, Jaco, Laurent, Thomas et moi, parce que c'est un des livres qui nous a à peu près tous marqués. C'est le livre, d'ailleurs, où Mortimer est seul, ou presque seul. Il y a Blake apparaît au début, à la fin. Mais surtout, c'est un récit très fantastique. Même très effrayant. Et quand on le lit jeune, on garde ça en nous. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant.
Il est très british dans toutes ses manières, ce professeur Mortimer. Et on l'entend là, à travers cette fiction.
C'est curieux d'entendre la voix, oui.
Parce que vous lui auriez mis un accent belge, vous
non, certainement pas, certainement pas. Mais c'est toujours évidemment paradoxal d'entendre une voix. On sait très bien que chaque lecteur se reconstruit la voix. Donc c'est extrêmement délicat de poser une voix sur un personnage.
Et pourtant, il a été aussi pensé comme tel, avec ce côté très, très, très british, par son créateur, oui. Edgar P. Jacobs, qui lui-même est belge comme vous. Mais ceci n'empêche pas cela. D'où vient ce scénario-là, de ces nouvelles aventures du capitaine Blake et du professeur Mortimer?
Un alignement de circonstances. Il fallait un ensemble de planètes, parce que sinon, je pense qu'on n'y serait pas allé. D'abord, la volonté d'un éditeur, hein, Yves Schlierf, aux éditions Blake et Mortimer, qui a vraiment, vraiment voulu que je m'y attelle, mais j'étais pas tout à fait convaincu. C'est une petite note de Jacobs qu'il a laissée, avec simplement Blake et Mortimer au palais de justice de Bruxelles. Et ça, c'était... Il y avait très peu de choses. Il y avait deux, trois lignes sur le rayonnement, enfin même pas le rayonnement, le fait qu'il y avait des studios qui émettaient les émissions TV et radio depuis le palais. C'était pas grand-chose. Mais c'était suffisant que pour qu'on se dise, ça y est, il nous ouvre la porte, il nous tend la main. Parce que le palais, c'est vraiment un lieu qui me fascine depuis que je suis tout petit, qui c'est un lieu... extraordinaire, complètement, par certains côtés, méprisé, un petit peu à l'abandon, sous cet immense ensemble d'échafaudages depuis 35 ans. C'est le symbole de la justice qui, normalement, domine la ville de Bruxelles et qui, curieusement, est en mauvais état. Et là, c'était un ensemble de paramètres où je me suis dit, c'est une façon formidable de parler de cet objet qui n'est pas seulement un ensemble de pierres monstrueux, parce que c'est 17 ans de travaux, hein. Donc ça a ruiné les caisses de l'État, c'est une espèce de lieu plein de légendes, de mystères, mais c'est aussi une occasion de retrouver sans doute ce que Jacobs a connu très jeune, puisqu'il a grandi un petit peu en contrebas du palais, il devait jouer en dessous de ce palais. Et donc je me suis dit, lui-même avait cette intention de renouer avec quelque chose de sa jeunesse. Et en le faisant avec mes amis, c'était pour nous une façon aussi de renouer avec, doublement, avec une mémoire.
Mais vous êtes reparti des plans du palais de justice. Il est plus proche du réel que d'autres palais de justice que vous avez pu dessiner, voire imaginer, notamment celui dans le palais des Trois Pouvoirs, hein, dans les cités obscures.
Oui, on est parti de beaucoup de choses. En fait, c'est le résultat d'années et d'années de passion pour cet endroit, d'années et d'années aussi de travail sur la pyramide de Gizeh, de Khéops. Et puis, tout ça, c'est entrecroisé. Comme ça, il y a eu, comme je vous le dis, une espèce d'évidence que un ensemble de choses pouvait s'entrelacer, pouvait prendre forme dans ce livre. Il nous fallait ça, il nous fallait des signes parce qu'on était tous un petit peu impressionnés de mettre les pas dans cet auteur qui nous fascine tant. Et donc, au fur et à mesure, ça s'est imposé. Ce récit s'est imposé. Ce palais, évidemment, est un lieu emblématique. Et par certains côtés, le mépris dont il est victime aujourd'hui nous intéresse autant que la fascination que nous avons pour lui.
Vous n'aimez pas qu'on vous qualifie de dessinateur, architecte. Pourtant, il y a vraiment des similitudes entre ces deux pratiques. Il y a aussi une manière d'habiter l'espace, comme on habite la page, comme on habite la case. Ce que rappelait votre complice, Benoît Peters, à l'occasion de l'exposition Archi et BD, La ville dessinée, qui avait lieu il y a presque une dizaine d'années à la Cité de l'architecture et du patrimoine.
Il y a évidemment une dimension qui est toujours là dans la bande dessinée, c'est cette idée qu'une bande dessinée est un espace habitable. Mmh. On la lit, on la relit, on s'arrête dessus, elle est à une échelle agréable pour nous, on la maîtrise, on la domine. Et les cases, bon, la case, le mot même de case fait penser à celui de maison, une petite maison, une petite chambre, une petite pièce. L'espace de la page est plutôt celui de l'immeuble, mais en même temps on peut imaginer toutes ces cases comme des fragments de notre cerveau, comme des fragments d'une réalité à la fois simultanée et successive. La bande dessinée, c'est profondément ça, hein, c'est-à-dire la page ou la double page, elle existe comme un ensemble qu'on appréhende d'un coup et en même temps on doit prendre le temps et la patience de la lire.
Et cette patience, ce sens du détail, cette minutie, vous l'avez également. Vous n'avez pas le sentiment que la page est un espace à habiter de la même manière qu'une structure?
Mon ami Benoît est toujours aussi brillant et c'est vrai que je trouve que la comparaison est assez justifiée. Par certains côtés, je préfère le mot scène aussi. Pour moi, la case est une scène. Et du coup, ça me permet de parler de l'expérience de Jacobs qui vient de l'opéra, puisqu'il a été chanteur d'opéra jusqu'à 40 ans. Et c'est une expérience de la scène, avec les entrées et les sorties de scène, avec tout ce, je vous dirais, les mécaniques scéniques et opératiques qui sont pour moi très proches de la bande dessinée. Et j'ai moi-même travaillé pour l'opéra, et j'ai fait de la scénographie pour des opérettes et pour de la danse. Et je me suis toujours senti très très bien sur une scène, curieusement. Alors que je crois que je ne suis pas spécialement bien dans un espace voué au cinéma. Alors que j'aime beaucoup travailler pour le cinéma, mais l'espace scénique, pour moi, a des liens très profonds avec la bande dessinée.
Ça se voit à l'œil nu, vous pouvez l'expliquer?
Oui, ça se voit à l'œil nu dans le sens où je crois que je vois les cases comme effectivement un petit espace qu'il faut travailler, qu'il faut architecturer, bien sûr, mais aussi où la présence humaine va jouer comme un catalyseur. Il faut que l'œil, comme là, à ce moment-là, l'éclairage vient suivre. On permet ainsi au spectateur de se focaliser à l'endroit où il faut. Et j'ai vraiment naturellement une façon de réagir sur une scène qui est proche d'un dessinateur face à une case.
C'est-à-dire que l'œil, le vôtre, quand vous dessinez cette page-là, par exemple, dans cette nouvelle aventure de Blake et Mortimer, il pense à la fois la case et en même temps, il pense la case dans la page.
Oui, alors c'est ça qui est vraiment pour moi au cœur du travail et de mon travail, c'est comment diriger l'œil. Là, vous parlez d'une page où on voit en première case, évidemment, la grande place de Bruxelles avec un immense espèce de serpent, de basilosaurus géant qui secoue la barque dans laquelle Mortimer est. Et donc il y a là une espèce de fracas par les vagues, je me suis d'ailleurs inspiré un petit peu de Turner, de certains tableaux qui m'ont beaucoup impressionné à Londres. Et en même temps, il faut donc sentir l'aspect un petit peu le climat. Et Jacobs était extraordinairement puissant dans la façon de rendre des atmosphères particulièrement angoissantes. Donc il faut sentir ce climat, en même temps il faut diriger l'œil, il faut que... Et ça j'adore faire, j'adore les compositions. Pour moi c'est vraiment le cœur de ce que j'aime le plus faire dans la bande dessinée, c'est comment organiser, structurer ces cases et structurer la planche. Effectivement, l'un doit équilibrer l'autre, les proportions des personnages sur les grandes cases, les proportions sur les petites cases, comment tout ça s'articule. C'est ça qui est vraiment le cœur du langage.
François Skuyten est notre invité jusqu'à midi et demi, invité de la Grande Table à l'occasion de la parution de cette nouvelle aventure, le dernier des pharaons de la série, des Black et Mortimer. Attention, c'est un hors-série, c'est une aventure unique, il n'y aura pas de suite. Bienvenue à vous, il est midi 17.
France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert.
Alors, ce Jacobs, vous le disiez, surnommé le baryton du 9e art, il était passionné d'opéra où il a fait ses débuts. Et le lyrique, l'opéra l'accompagnera toute sa vie jusqu'au titre qu'il va donner à son autobiographie. C'était aussi un passionné de science et à ce propos, il disait « La fusée interplanétaire ou spatio-temporelle s'est substituée au cheval ailé ou au tapis volant. Le laboratoire du savant a remplacé l'antre du magicien. La quête est restée la même, mais le rêve est devenu scientifique. » Ça, c'est ce qu'il écrivait dans son récit autobiographique à un opéra de papier, les mémoires de Blake et Mortimer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est substitué pour vous à la fusée interplanétaire et qu'est-ce qui a remplacé le laboratoire du savant? De nouvelles utopies technologiques?
Alors voilà, c'est évidemment les questions qu'on s'est posées. À partir du moment où on a voulu absolument, c'était une de nos convictions, mettre ce récit aujourd'hui, enfin, pas tout à fait aujourd'hui, puisqu'on est plutôt à la fin des années 80, début des années 90. On le voit d'ailleurs aux ordinateurs. À partir du moment où on inscrit Blake et Mortimer dans les angoisses de notre temps et dans les rêves de notre époque, il est évident que qu'est-ce qu'on allait traiter? Comment est-ce qu'on allait retrouver cette équation entre fantastique et science? Comment est-ce qu'on allait essayer de saisir ce qui fait la force d'une œuvre comme celle-là, cette capacité à décrypter son temps? À cartographier les grands mythes et les grandes peurs de son temps. C'est ça la force de ses livres, que ce soit ceux d'Hergé ou de Franquin, c'est comment il décodait leur époque. Et donc nous, on s'est affronté à une notion qui nous, moi et même Jaco et Thomas, qui nous fascine, et si on mettait à plat le système? Et si toute cette technologie qui nous a maintenant totalement transformé quelque part a été brusquement en reset, en reboot, et que on était donc on n'avait plus de dettes, on n'avait plus de et qu'on recommençait à zéro. Qu'est-ce que ça propose? C'est quoi sauver le monde aujourd'hui? C'est certainement pas la façon dont Blake et Mortimer se comportaient dans les années 50. On est dans un autre monde. Et c'était ça qui était passionnant. C'était d'essayer de voir comment ces personnages qui nous ont fait rêver dans les années 50 peuvent encore nous interroger aujourd'hui.
Il est grave le monde que vous imaginez avec vos co-auteurs. C'est un monde crépusculaire, un monde aux couleurs de l'avenir que l'humanité est en train de se construire pour vous aujourd'hui. On va droit dans cette direction-là?
On va pas vous cacher qu'on a quand même des raisons d'être très inquiets et en même temps d'être, je pense, toujours des bonnes raisons d'espérer dans nos capacités de résilience, de capacité à trouver, justement, par la science aussi, mais par notre intelligence, à trouver des solutions. Et c'est ça, c'est en cela que les fictions, pour moi, sont intéressantes, c'est qu'elles soulèvent ça, elles nous réveillent sur des choses comme celle-là.
D'où la présence aussi dans cette aventure de veilleurs comme la jeune Luna qui est très débrouillarde, d'où la présence aussi de cette petite communauté qui dans ce Bruxelles déserté et apocalyptique va se reformer, transformer aussi des immeubles en structures agricoles, des avenues en pâturage. Vous jouez avec cette idée qu'il doit y avoir des îlots de résistance qui se construisent dans ce monde qui s'annonce franchement assez mal. Lui, Jacobs, c'était un touche-à-tout comme vous, chant, mais aussi costume de scène et décor. Sauf que ces deux vies à lui se sont succédées. Il a d'abord épousé une carrière de chanteur d'opéra, puis face aux déconvenues qui se sont présentées, il est passé au dessin, il en a vraiment fait sa deuxième vie. Là où vous, vous passez en permanence de l'un à l'autre, de la scénographie des expos à la conception même d'un musée, sans distinction, jusqu'aux bandes dessinées que vous réalisez, vous avez nourri le récit de sa vie à lui et de votre vie à vous, ce récit-là. C'est une rencontre que vous avez créée entre vos deux vies par l'imaginaire de Blake et Mortimer.
Oui, c'est plutôt bien vu. J'ai eu la chance que mes deux amis, Jacques Covendermal et Thomas Gunzik, et Laurent Durieux, avec le travail extraordinaire de couleur qu'il a fait, ils ont essayé de me donner l'espace pour justement faire en sorte que ce livre, je puisse y mettre toute ma vie. Je trouve que les livres, ça doit être quelque chose d'un petit peu exceptionnel. Ça doit être rare par certains côtés. D'ailleurs, après tout, ce livre est un petit peu un éloge d'une forme de décroissance. Donc, essayer de faire moins, mais mieux. Et donc, ici, c'est vrai que beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on a mis en jeu dans cet album.
Alors, pour le jour où les ordinateurs vont s'éteindre, vous avez gardé tous vos crayons? Vous continuez à travailler au crayon?
Oui, oui. Alors, la chance que j'ai, c'est que non seulement j'ai donné beaucoup de mes planches à la BNF ou à la Fondation Roi Baudouin. Et donc, je suis beaucoup plus léger par rapport à ça. Du coup, c'est toujours ce qu'il y a à venir qui m'intéresse.
On va écouter les mots de Edgar Jacobs sur son enfance, sur ses influences.
Comme toutes les causes de mon âge, je raffolais des illustrés pour la jeunesse, que j'acquérais d'ailleurs d'occasion à raison de 5 numéros dépareillés pour 10 centimes. Et j'entends encore le Camelot dans le calme des après-midi de dimanche, où il y avait donc, à part un phono très lointain, c'était le silence absolu. Donc, alors j'entendais le bonhomme qui approchait, qui disait « La collection complète, les 5 numéros différents pour 10 centimes, demandez la collection complète !» Et alors, quand je parvenais à avoir les 10 centimes en question, j'allais acheter ça. Leur histoire me semblait d'autant plus mystérieuse que je n'en lisais qu'une fragment et que je ne savais ni le commencement ni la fin, puisque c'était des morceaux dépareillés. Mais déjà, à ce moment-là, j'ai eu l'occasion donc de voir des bouquins illustrés, par exemple, par Gustave Doré, par Carandache. Le sommet de toute la lecture, c'était le Grand Larousse illustré. Donc, ah oui. C'était l'océan de savoir.
Ouais, c'est la somme de tout.
C'est la somme de tout. Enfin, la seule récréation qu'on me laissait était le dessin. Et je me rappelle très bien que les tout premiers dessins que j'ai faits, donc à l'encre de Chine et avec une plume à dessin, mon père me les a apportés. C'était presque l'adoubement du dessinateur. L'encre de Chine.
Vous aussi, François.
Joli. Je ne connaissais pas. C'est très joli.
Quand vous aviez du mal à dormir, quand vous étiez petit, que vous ne vouliez pas faire la sieste, votre père vous donnait aussi un dictionnaire, un Larousse illustré pour vous occuper.
Alors, mon père a joué un grand rôle dans ce que je suis aujourd'hui, non pas seulement par le fait que j'étais son fils, mais aussi par le fait qu'il était vraiment comme un professeur. Il a été totalement obsédé, lui, par le fait de me former. Donc, il m'obligeait
donc,
à faire
par vos lectures aussi.
Oui. Ouais. Surtout par le regard sur la peinture. Il n'avait pas beaucoup d'intérêt pour la bande dessinée, pour être franc. Et je dirais même qu'il avait un certain mépris. C'est mon frère qui donc j'étais entre deux cultures, la culture de la peinture, de la grande histoire de la peinture et de l'architecture, et mon frère qui lui essayait de m'inculquer et qui me lisait Blake et Mortimer. J'étais sur ses genoux, il prenait comme Jacobs des voix pour incarner ces personnages. Mais mon père surtout, il n'avait aucun intérêt pour le résultat de mes études. La seule chose qui lui tenait à cœur, c'est que je puisse faire un dégradé d'aquarelle absolument impeccable, que je puisse regarder, apprendre à regarder. Et donc, ça a été une formation qui, sans doute, m'a beaucoup aidé.
Une formation de coloriste, ce qui était d'ailleurs aussi Jacobs, hein, le sens
très
de
grand
la couleur,
coloriste.
Ce qui était très, très
important. Très, très grand coloriste, on ne le dira jamais assez. À quel point...
C'est d'ailleurs comme ça qu'il commence avec Hergé, absolument. Au départ, en 1944, avec cet album de Tintin aussi qu'il va devoir remanier. C'était pas non plus un dessinateur solitaire, comme vous d'ailleurs, vous avez travaillé en équipe. Il faut juste rapidement raconter qu'après la mort de Jacobs, en 1987, il ne va pas finir son diptyque, les trois formules du professeur. professeur Sato, et que donc en 90, trois ans plus tard, Bob Demore, son complice, hein, va boucler le deuxième volume. Puis, six ans plus tard, un premier duo va reprendre les aventures de Blake et Mortimer, puis un second, puis un troisième, etc. etc. Aujourd'hui, vous arrivez là, dans la course, avec cette nouvelle aventure. La tâche du repreneur, elle est beaucoup plus ardue qu'on ne l'imagine. Vous sentez-vous, dans cette aventure, une responsabilité morale ou au contraire, vous vous êtes affranchi de toute obligation envers le créateur de Blake et Mortimer pour rester vous-même et pas tomber dans le piège de la copie?
Oh, que de questions.
C'est la même, en fait.
Oui, c'est la même, mais elle est relativement... Elle devrait être, pour arriver à la cerner, explicitée. En réalité, nous sommes un petit peu en dehors. On nous a donné l'autorisation, et d'ailleurs, c'est comme ça que Yves a réussi à me convaincre. C'était que je pouvais le faire dans mon style, que je pouvais le faire au nombre de pages. Il a beaucoup plus de pages qu'un Blake et Mortimer classique. Et ainsi, comme ça, il me donnait de plus en plus de liberté, que je pouvais introduire un personnage féminin fort, pas un personnage féminin pour un second rôle, vraiment quelqu'un de déterminant, la fille du cheikh Abdel Belrazek, vraiment pour moi le cœur même du livre. Et donc, au fur et à mesure, j'ai senti que l'espace était là, pour une fois, une seule fois. Je ne sais pas s'ils vont rééditer cette liberté, cette page blanche qu'ils nous ont donnée, mais en tout cas, c'était un beau cadeau. Et après ça, évidemment, qu'est-ce que c'est que la fidélité à une œuvre? C'est la question qui nous a hantés. Qu'est-ce que c'est qu'être fidèle? Nous, on a essayé d'être fidèle au fantastique, à la fascination que Jacobs avait pour une forme d'expressionnisme, pour ce mélange très curieux de fantastique et de science. On a essayé d'être fidèle à un processus sur le détail du dessin, comment il essayait d'aller jusqu'au bout de ses repérages. Tout ça, ça nous a guidés. En fait, c'est l'auteur nous a beaucoup guidés, en se disant qu'en espérant qu'à la fin, on ait le sentiment de lire un Blake et Mortimer.
François Skuyten, vous êtes un baron du royaume de Belgique. Vous êtes aussi un baron de la BD.
Oh là là.
Vous pouvez pas tirer votre révérence. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrêter la bande dessinée là, maintenant? Vous parliez de l'importance de la scène aussi pour vous. Tant qu'on a la force de dessiner, on y va.
On y va et on va continuer à dessiner. On va continuer à essayer de vous surprendre, à faire des tas de choses. Mais peut-être que un métier que vous avez pratiqué depuis que vous avez l'âge de 16 ans, presque pendant 50 ans, vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Est-ce que j'ai encore le droit de me permettre de couper des arbres pour remplir un tuyau qui est déjà boursouflé, surchargé de nouveautés? Et donc, en tout cas, prendre un peu de recul, essayer de se réinventer, essayer de... Surtout quand on a eu un alignement de planètes aussi généreux, aussi magique, il ne faut pas revenir en dessous.
Bon, mais en attendant, il faut arrêter de faire des déclarations comme ça.
J'ai un peu honte parce que ça a pris trop d'importance à mon goût, mais...
Voilà, on a rectifié alors.
Oui, voilà.
Vous allez continuer. Merci mille fois à vous, François Skuyten, d'être venu autour de cette grande table ce matin, puis d'avoir un peu éprouvé ces nouveaux studios avec nous.
Ah, c'est les premières fois, c'est formidable.
Comment vous les trouvez?
Formidable. Non, très très bien, puis je sens là encore le goût du neuf.
Bon, on va tenter de les remplir un peu, de leur donner une âme. Merci à vous, à tout de suite pour la deuxième partie de la grande table.